Radio Django, la rose des vents.
Il est l'heure de la rose des vents. Mamadi de la rédaction de Voix d'Exil nous a rejoint ce soir. Bonsoir Mamadi. Tu vas nous présenter ce soir le deuxième volet de l'émission du 18 septembre dernier qui était consacré au sujet de la fouille des téléphones portables des requérants d'asile.
Effectivement Fabien, lors de l'émission du 18 septembre, nous nous sommes intéressés à une initiative parlementaire fédérale de l'UDC qui a pour but de créer une base légale qui permettrait aux autorités de fouiller le téléphone portable des requérants pour vérifier leur identité. Pour aborder le sujet, nous avions invité Léonore Cellier, étudiante en master de droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information à l'Université de Lausanne. L'objectif en fait de cette émission était d'aborder les enjeux juridiques de cette initiative. Les propos de notre invité étaient très intéressants et nous nous sommes dit avec Omar, responsable de la rédaction de Voix d'Exil, que ce serait intéressant d'approfondir le sujet.
Et on va continuer donc ce soir par la voie des moyens de communication.
En effet, étant donné que le sujet touche étroitement le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les téléphones portables qui sont aujourd'hui des mini-ordinateurs qui détiennent énormément de données sur nous, on s'est dit qu'il serait pertinent de réfléchir aux enjeux relatifs à ces données et aux moyens de les protéger.
Et pour ce faire, vous avez interviewé un spécialiste.
Effectivement, Fabien, nous avons rencontré vendredi dernier Julien Clavel. Julien Clavel travaille dans le secteur web d'un grand syndicat suisse et est également consultant en sécurité numérique individuelle.
Écoutons donc votre entretien avec Julien Clavel.
Volontiers.
Bonjour Julien Clavel.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Que représente le téléphone portable aujourd'hui ?
Beaucoup de choses. Une grande partie de la vie des gens est contenue dans cet appareil, ne serait-ce que le fait que leurs contacts personnels y sont enregistrés, leurs contacts professionnels souvent aussi, leurs intérêts, quand on pense à toutes les recherches qu'on fait avec son téléphone portable, en ligne sur un navigateur ou alors via un logiciel de cartes pour rechercher une destination précise ou combien de temps on mettra pour atteindre cette destination, etc., etc. C'est vraiment une grande, grande partie de la vie personnelle qui est conservée et qui continue à se développer grâce à cet appareil.
Mais en fait, l'initiative parlementaire de l'UDC, elle suppose que les autorités aient, à un moment donné, le droit d'avoir accès en fait au téléphone portable, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, il y a quand même une obligation, c'est comme une loi, vous devez remettre votre téléphone portable. C'est la loi,
alors,
c'est la loi.
Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. S'ils veulent juste avoir le téléphone dans la main et puis la personne leur remet les codes d'accès, ça leur prendra quelques minutes sans doute pour jeter un œil dedans, pour pouvoir, si le but, le premier but c'est d'établir la provenance de la personne, regarder rapidement le contenu du téléphone devrait suffire, ne serait-ce que la liste des derniers appels, le compte Facebook si ça se trouve, ou le carnet d'adresses s'il y en a un, regarder les numéros de téléphone dans le carnet d'adresses s'ils viennent tous d'un pays en particulier, ça leur donnera un indice dans ce sens-là, etc. Maintenant, ils ont simplement l'appareil dans la main, que l'appareil est verrouillé et que la personne ne veut pas donner son mode de passe pour déverrouiller l'appareil, là, ils auront plus de problèmes, ce sera plus difficile pour eux. Et là, tout dépendra des moyens qu'ils sont prêts à investir pour investiguer l'appareil. Ils peuvent utiliser des moyens techniques, mais ces moyens techniques, pour entrer dans un téléphone qui est verrouillé, déjà, ils ne sont pas donnés. On doit passer par des entreprises privées qui font ça ou fournissent ce service. Et ça prend du temps, la plupart du temps, pour craquer un mot de passe qui est à 6 chiffres. Si ces 6 chiffres ne sont pas évidents, du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est vraiment aléatoire, ça peut prendre des jours, voire des semaines. Alors, est-ce qu'ils seront prêts à aller jusque-là pour tous les téléphones portables des requérances? A priori, ça me semble être beaucoup. de peine et beaucoup d'efforts et de ressources pour une information ou des informations qui, selon quoi, seraient peut-être plus faciles à acquérir autrement. Mais là, une fois de plus, tout dépendra du détail de cette loi, comme l'a dit votre interlocutrice la dernière fois. Les détails, pour l'instant, c'est encore... On ne peut que spéculer pour l'instant là-dessus.
Okay. Mais vous avez parlé d'applications pour sécuriser en fait, nos communications de manière confidentielle. Vous pouvez nous parler un peu plus de cette application?
Bon, alors là, c'est plusieurs applications utilisent ce qui s'appelle le chiffrement de bout en bout. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une... Pour être précis, c'est des applications de téléphonie ou de chat, hein, qui passent par Internet. Hein. Et ce trafic-là, le trafic chat et puis le trafic de discussion peut être chiffré, c'est-à-dire que c'est quasi impossible de l'écouter. Hein. Mais ça ne fonctionne, le chiffrement de bout en bout, il ne fonctionne que parce que c'est comme si vous aviez une clé sur votre appareil, mm-hmm. et puis votre correspondant de l'autre côté a aussi une clé, et vous échangez ces clés. Et c'est ça qui permet de chiffrer tout le trafic, en fait. Okay. Donc c'est vraiment lié à l'appareil. Okay. Et ça, c'est une manière technique. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. C'est juste exactement
un exemple.
Voilà. Alors, WhatsApp prétendument a le chiffrement de bout en bout. Je dis prétendument parce que WhatsApp n'est pas un logiciel open source, c'est-à-dire le code source n'est pas ouvert. C'est-à-dire que quelqu'un d'indépendant ne peut pas à chaque instant aller voir comment fonctionne le code de WhatsApp. Donc on ne peut que croire WhatsApp quand WhatsApp nous dit il y a le chiffrement de bout en bout. Okay. On peut aussi croire, ok, WhatsApp a aussi eu des audits techniques, on peut croire ces audits, si on veut. Hein. Mm-hmm. Mais si on veut vraiment une confiance plus élevée, il vaut mieux utiliser des applications qui offrent le chiffrement de bout en bout, mais okay. dont le code source est ouvert. Parce que là, n'importe qui peut aller voir comment le logiciel fonctionne. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, des applications comme ça. En l'occurrence, une application qui fait ça, c'est Signal. Il y en a une autre qui s'appelle Wire. C'est, pour autant que je sache, les deux seules qui ont le code source ouvert et offrent le chiffrement de bout en bout.
D'accord. Et là, créer des mots de passe ou sauvegarder ces données de manière plus sûre, quel conseil pourriez-vous nous donner rapport à ça?
Alors, un mot de passe sûr, mm-hmm. qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un mot de passe qu'on n'utilise que à un endroit, c'est-à-dire à l'inverse, il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout, surtout pas.
D'accord.
Même s'il est fort, même s'il est compliqué. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que si, admettons que vous utilisiez 15 services et que pour ces 15 services, vous utilisez le même mot de passe. Si un de ces services est compromis, c'est-à-dire que la base de données des mots de passe de tous les utilisateurs part dans la nature, vous pouvez être sûr que les criminels ensuite vont utiliser ces mots de passe qui sont dans la nature et vont les essayer partout, où ils peuvent. Mmh. Hein? C'est-à-dire, entre autres, sur les 14 autres services que vous utilisez.
D'accord.
Donc, il y a la nécessité d'avoir un mot de passe unique pour chaque service qu'on utilise. Hein? S'il est compromis, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave pour ce service, mais au moins les autres services ne sont pas compromis. Donc, première règle pour les mots de passe sûrs, mm-hmm. partout des mots de passe différents.
D'accord.
Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe sûr, hein? Mm-hmm. Un mot de passe sûr, c'est quelque chose en fait, qui est le plus éloigné de vous que possible. C'est-à-dire qu'il n'y aura certainement pas votre nom dedans, certainement pas votre date de naissance, certainement pas les choses dans ce genre. Ce ne sera certainement pas mot de passe 1, 2, 3, 4. Hein,
d'accord.
Parce que celui-là, il est déjà bêtement trop utilisé.
Okay.
Et puis il est aussi faible parce que c'est la première idée... que les criminels utiliseront, ou bien quiconque veut essayer d'utiliser, d'entrer dans un service, il utilisera ces logiques-là, hein, logiques qui sont trop utilisées, en fait.
D'accord.
Ce ne sera pas un mot de passe qui comprend un mot qu'on trouve dans le dictionnaire, peu importe dans quelle langue. Mm-hmm. Là, ça devient compliqué, hein, parce que il y a aujourd'hui des processus automatisés qui utilisent tous les mots qui existent et puis qui essayent d'en composer des mots de passe, etc. Donc, en fait, fondamentalement un mot de passe composé de trois mots qui existent dans un dictionnaire, il est presque aussi peu sûr que 1, 2, 3, 4.
D'accord.
Donc, il faut un mot de passe qui est minimum 8 caractères, un mélange de lettres et de chiffres, et de signes aussi. D'accord. Alors, ça fait beaucoup de choses. Moi, mon conseil, c'est de penser à une phrase. Vous pensez à une phrase et vous utilisez la première lettre de chaque mot de la phrase. Là, vous arrivez à quelque chose d'assez complexe. Hein. Par exemple, il y a beaucoup de passants sur cette rue, hein, dans cette rue. Il y a beaucoup de passants dans cette rue. Voilà, hein. Ça fera I, Y, A, B, etc. etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous mélangez grande lettre, petite lettre. Hein, peut-être que la première, ça sera une majuscule.
Okay.
Vous finissez ça avec... Oh, il y a 42 piétons dans cette rue. Ça, c'est mieux encore parce que on a un nom. Puis vous finissez ça avec un point d'exclamation. Mm-hmm. Là, vous avez un bon mot de passe.
Là, maintenant, avec la nouvelle technologie... On se dit maintenant c'est plus sûr en fait de sécuriser son téléphone à travers des empreintes ou des reconnaissances faciales. Que direz-vous par rapport à ça?
Alors je déconseille parce que je trouve qu'il y a un problème conceptuel. Pour moi, c'est pas des mots de passe. Une empreinte digitale, ce n'est pas un mot de passe, et un visage n'est pas un mot de passe non plus, c'est plutôt un nom d'utilisateur. Un mot de passe, c'est quelque chose que l'on sait, et c'est quelque chose que l'on peut changer, premièrement. Changer de visage, ça va être un peu dur. Hein. Changer d'empreinte digitale aussi. Mais il y a un problème, alors ça c'était le problème conceptuel, mais il y a un problème très pratique de sécurité aussi, c'est que une empreinte digitale, c'est facile à copier. Une empreinte digitale, spécialement celle du doigt qu'on utilise le plus dans ce cas-là, cette empreinte-là, elle est dans les faits déjà sur l'écran du téléphone. Donc la copier avec un petit film en plastique, par exemple, c'est assez trivial.
Des propos qui sont passablement angoissants. La suite des conseils et les résultats de cet entretien sont à retrouver sur notre site internet django.fm. On vous a mis l'intégralité et des bonus de cet entretien. Toi, Mamadi, personnellement, quel est le message essentiel que tu as retenu de cet entretien ?
Alors, ce que j'ai surtout retenu, Fabien, c'est qu'on croit qu'une empreinte digitale est plus sûre pour sécuriser son téléphone qu'un code. Maintenant, aujourd'hui, je me rends compte qu'un code sécurisé est bien plus fiable qu'une empreinte digitale. J'ai d'ailleurs passé la soirée du vendredi dernier à changer les codes de toutes mes plateformes numériques.
Et bien, je vois que tu as passé un bon week-end.
Un week-end codé.
Effectivement, retouché. Donc voilà, c'est le conseil qu'on retiendra ce soir, effectivement. Plutôt passer sur un code que sur les empreintes digitales. Merci à toi, Mamadi. Merci également à Omar de la rédaction de Voix d'Exil, tous deux rédacteurs à Voix d'Exil. Le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Pour ce sujet à la fois original et inquiétant. Et bien entendu, merci à votre invité, Julien Clavel, qui, je le rappelle, est consultant en sécurité numérique individuelle de nous. Merci à lui de nous avoir éclairé sur ce sujet de la protection des données personnelles, un sujet à réécouter avec les bonus sur notre site django.fm et un sujet qui sera évidemment relayé sur votre plateforme voixdexil.ch. Notre invité, Jean-Raoul Schopfer, qu'on va accueillir dans un instant pour Cultiver Lausanne, c'est un sujet qui vous touche dans votre vie professionnelle, cette question des migrants, de la sécurité.
Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que j'enseigne dans une école où nous accueillons les migrants, en fait, qui viennent de l'EVAM. Ça s'appelle l'école de la transition. Ça s'appelait l'OPTI il y a 2 ans. C'était mieux connu sous ce nom-là. Et donc, effectivement, j'ai d'abord beaucoup de respect, d'admiration pour ces gens qui viennent en Suisse, qui cherchent à s'intégrer. Et ça me touche beaucoup, oui.
Et puis, cette question de la sécurité des téléphones portables, de la fouille des téléphones portables.
Oui, alors ça, je trouve effectivement scandaleux, mais en même temps, j'ai quelques craintes personnelles qu'on soit beaucoup plus surveillé qu'on ne croit, en fait, avant même que commence ce genre de fouille.
Ouais, même pour nous, en tant que
Suisse. Des groupes étrangers, je ne sais pas.
Effectivement, vague sujet, grande boîte de Pandore qu'on ouvre gentiment ici avec Voix d'Exil. Voici un peu de musique avant de parler YouTube avec notre invité Jean-Raoul Schopfer.
met my baby on the yes, baby. Well, I was riding on the train today. He said, Fräulein, wo ist der Zug Billett? I said, I'm sorry, but this honey day. No, no, I don't. No, I don't. But you can have my Nata number if you want. I met my baby on the S, baby. Well, I was riding on the train today. He wore a sexy dunkle blower or two. I got the fever from my head to my shoes. Can you pay? Can you pay? I said I'll pay you with my kisses any day. Everybody say choo-choo, oh, choo-choo, oh, choo-choo. Tonight when we go home, something's got a hold on me. Why am I such a drama queen? I always fall into this mess. The only thing that's left is stress. I'm and my baby on the yes, baby. While I was riding on the train today, I said for you I'd make a cherry pie. You said,
Verbotner, ich hab Frau und Kind hierheim.
Oh, not again, not again. Why do I always fall for these married men? Everybody say choo-choo, whoa, choo-choo, whoa, choo-choo, whoa, choo-choo, whoa. It's such a shame, I guess I'm gonna have to catch another train.
Choo-choo, the SBB song, c'est signé Bradley Butler, bien sûr, et c'est une artiste suisse pour parler des CFF, évidemment. Radio Django, vous écoutez également La Fabrique, 18h38, voici Cultiver Lausanne.